Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Eh bien, en ce dimanche, nous allons parler de cloches. Ça va bien parce que le dimanche, bien généralement, on entend les cloches dans nos villages bretons. Et c'est Michel Prisiac qui nous rejoint pour Du cœur à l'ouvrage. Et donc ce matin, bonjour Michel.
Bonjour.
Une histoire de cloches.
Une histoire de cloches. Disons que je parle d'art campanaire pour préciser les choses. Comme ça, les cloches, c'est bien celles qu'on entend rythmer le temps qui passe. Dans les villages, dans les villes aussi d'ailleurs. Et en fait, la vie religieuse n'a pas été la seule à s'en servir. Dans les écoles, jusque dans les écoles normales d'instituteurs, à Saint-Brieuc, sans doute ailleurs, un élève avait en charge de sonner la cloche pour les récréations, pour les pauses qu'on dit aujourd'hui méridiennes, mais aussi pour la fin des cours. Alors, il avait liberté. C'est lui qui contrôlait l'heure et n'avait pas à demander au professeur l'autorisation de sortir. Il était l'heure, il sonnait sa cloche physiquement, de façon que tout le monde entende. Et pourtant, c'était dans les écoles normales d'instituteurs. Le tintement des cloches, il faut dire que c'est un régal de sonorité. Une note gardée avec précision tout au long de la vie de la cloche, et donné dès la fabrication. Tout un art. Alors, Villedieu-les-Poêles est depuis très longtemps le paradis des fabricants de cloches. Les ateliers y ont été très nombreux, et aujourd'hui encore, Villedieu-les-Poêles est une étape nécessaire, en fait, pour découvrir ce qu'est l'art campanaire en France. Alors, une fonderie, eh bien, c'est la découverte de la cité du cuivre, Villedieu-les-Poêles. Ce sont ses cours médiévales, ce sont des chemins pittoresques, et bien sûr un artisanat qui est florissant, grâce justement aux cloches. Vous avez un atelier unique en France, qui a 9 siècles de tradition. Il est passé des gestes ancestraux aux techniques les plus modernes, sans perdre en qualité pour les cloches. On fabrique autour d'une centaine de cloches chaque année. Et c'est un atelier du 19e siècle qui a été aménagé, mais qui est resté dans un cadre authentique. Alors on dira, comme c'est marqué dans les guides, qu'il s'agit d'une visite sur mesure, parce que c'est des guides en français, en anglais, en allemand, mais aussi des visites adaptées pour les déficients visuels, moteurs et mentaux, et ça c'est très important. Il y a également des dossiers scolaires et pédagogiques sur demande, et, comme il est écrit sur le document, une équipe d'accueil compétente et à votre service, ce que je crois parfaitement. Alors la cloche, finalement, c'était un instrument de communication de masse. Ça rythmait le temps, ça guidait les voyageurs, et il paraît même que c'est éloigner la grêle, et c'est peut-être encore possible, qui alerte les populations. C'est encore l'objet liturgique et aussi instrument de musique. C'est dire que le moindre bourg possédait autrefois souvent plusieurs cloches, chacune ayant sa fonction, et à l'intérieur du clocher de l'église ou du beffroi communal, il était fréquent d'y voir un ensemble important de cloches en volée ou en carillon. Dans son champ, le paysan était parfaitement informé de la vie de la communauté. Les sonneries étaient d'une grande précision et respectaient des règles codifiées. Le nombre de cloches utilisées, le type de sonnerie et les répétitions éventuelles permettaient de constituer un véritable langage donnant à la population toutes informations utiles sur les causes et les raisons de la sonnerie. Alors, les cloches. Comme je vous disais, elles réglaient la vie des habitants de la campagne. Pas besoin de montres dans les champs. Le laboureur, comme le patour, comme on dit, se fiait au tintement des cloches. Avec l'Angélus, il savait qu'il était temps de ramener le harnais à l'écurie, ou encore les bêtes à l'étable. Les cloches apportaient les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Par exemple, lorsqu'un incendie se déclarait dans la commune, eh bien, on sonnait le tocsin. C'était l'invitation des personnes disponibles aussi à se rendre sur les lieux pour transporter de l'eau pour éteindre le feu. Très jeunes, les enfants des campagnes apprenaient à identifier les différents sons. Le tintement de l'angélus, le glas, avec les volées annonçant un décès, les branlées, annonçant les messes ou les fêtes religieuses, ou encore les célébrations de baptême et de mariage. Ainsi, toute la population de la paroisse avait l'information au même moment. L'annonce du décès, par exemple, était faite par le tocsin, comme je vous disais, à l'église et à la mairie. Et ben après, on avait bien sûr l'heure des enterrements, des obsèques, mais la première annonce s'était faite par les cloches. Le glas pour avertir les paroissiens, c'était 9 coups de cloche pour un homme et 7 coups de cloche pour une femme. Ainsi, on pouvait savoir qui, pas exactement qui était décédé, mais au moins si c'était un homme et une femme. Et un exemple relevé dans le cahier des paroisses de Saint-Gilles-Pigeot avant 1789. Vous savez, il y avait des cahiers de paroisse et les prêtres notaient tout ce qui se passait dans la paroisse. Il y avait donc 10 cloches à Saint-Gilles-Pigeot, 4 au clocher de l'église paroissiale, 1 au-dessus de la sacristie, 1 à Saint-Laurent, 2 à Saint-Gilda-du-Pré, 1 à Kerguinère et 1 à la Clarté. Hormis le bourdon de Saint-Gilles et la petite cloche de la tour, eh bien, elles furent toutes transportées à Guingamp. Et à quelle occasion, s'il vous plaît? Eh bien, la Révolution était passée par là. Elle avait besoin d'argent. Enfin, le pays avait besoin d'argent, vendre des biens nationaux. Et les cloches ont été réquisitionnées simplement pour être fondues, pour faire des boulets pour les canons, ou pour faire toute autre chose. On a réutilisé le métal, en fait. Des arrêtés du comité du salut public. Établir des fonderies de canons pour la fonte des cloches dans différentes grandes villes de France. Et puis, on s'est rendu compte que la population réagissait très 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 mal. Et ils ont dû finalement arrêter de dire aux gens de porter les cloches. Parce qu'ils les cachaient dans les charrettes et autres. Ils arrivaient toujours à en dissimuler. Et toutes ne restaient pas pour être fondues. Il y en avait qui en mettaient de côté. Ça a été toute une histoire. Parce que les personnes qui défendaient les cloches, ils considéraient que c'était presque une cloche d'ordre civique et du bien public. Elle sonnait les heures, donner des informations, tout ça, quoi. C'était leur enlever quelque chose presque d'intime, en réalité. Alors, l'art campanaire, on peut le qualifier d'art vraiment vernaculaire, art des campagnes. Ajoutons que les fondeurs de cloches ont de l'or entre les mains, puisqu'ils savent dompter le métal fondu, pour le mettre au diapason, c'est le cas de le dire, de la note attendue de chaque cloche. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Saint-Gilles-Pigeot, la note en do dièse. Et si jamais la fonte de la cloche se passait mal, c'était pas le do dièse qui ressortait, mais le do peut-être, et les commanditaires refusaient systématiquement la cloche, quoi. Donc c'est quelque chose de très très important. Alors vous pouvez me contacter sur michelprisiac@orange.fr. Cette chronique est disponible en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Samedi, du cœur à l'ouvrage, sera consacré à des mots français que vous croisez presque tous les jours, tant ils sont nombreux. Il y en a plus de 139 dans le dictionnaire. Ce sont des mots qui se terminent par « thérapie ».
Voilà, est-ce qu'il y a une campanothérapie? Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que finalement, on peut peut-être aussi parler de ces cloches dans les campagnes qui rythment la vie, hein, vous le disiez, Michel, mais qui font des fois aussi un peu polémique.
Voilà, on n'aime pas. Et puis les mots en, lui-même, en eux-mêmes de thérapie, on peut aussi en créer. Il y a certains qu'on connaît bien et qui sont respectables de médecine, mais il y en a bien d'autres quand même qui nous emmènent sur des terrains un peu artificiel, virtuel, pour ne pas dire des terrains un peu glissants.
Voilà, vous allez nous raconter tout cela samedi prochain, Michel. Je retiens que vous ne m'avez pas sonné les cloches et c'est très bien. Je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous samedi prochain.
Bien sûr, à samedi. Bonne journée et bonne semaine à tous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.